RCF. RCF, il est 19h.
Le journal, Laurette Duranel.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la une ce soir, l'aide internationale s'organise pour venir en aide à la Turquie et à la Syrie au lendemain des deux puissants séismes qui ont fait plus de 6200 morts. Une association basée à Limoges est partie en renfort ce matin, on l'entendra. Dans l'actualité également, mobilisation en baisse dans les cortèges pour la troisième journée contre la réforme des retraites. On ira à Lyon pour prendre le pouls des manifestants. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le diocèse de Toulon est sous le coup d'une visite apostolique suite aux problèmes de dysfonctionnement dénoncé l'été dernier. La Turquie et la Syrie comptent leurs morts et prient pour leurs survivants au lendemain des deux séismes qui les ont frappés coup sur coup hier. Le dernier bilan fait état de plus de 6200 morts. Pour sauver les survivants coincés sous les décombres et venir en aide aux blessés, des dizaines de pays ont envoyé des secouristes et personnels médicaux. Les pompiers de l'urgence internationale basés à Limoges font partie des équipes mobilisées en France. Ils sont partis ce matin en Turquie. L'équipe de sauveteurs se rend à Adana, une ville située à 10 km de l'épicentre. Les premières actions de la mission des sauveteurs sont prépondérantes pour Barbara Menck, chargée de communication pour Puy. Elle est au micro RCF Limousin de Lucie Montibus-O'Sullivan.
Notre mission, ça va être une mission de recherche et de sauvetage, évidemment, donc à l'aide de chiens, mais à l'aide aussi de matériel, d'écoute, de caméras thermiques pour pouvoir éventuellement localiser des victimes qui seraient encore sous les décombres à notre arrivée. Enfin, toutes ces missions vont se mettre en place quand on sera sur place, parce qu'il y a toute une coordination qui s'opère sous l'égide des Nations Unies. Et donc, avec les autres équipes, on va voir où nos ressources, aussi bien humaines que matérielles, sont nécessaires pour pouvoir avancer sur les différents chantiers de travail. Et un peu la course contre la montre, vu qu'il a fallu préparer et l'équipe, et le matériel, et évidemment tout le déplacement, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de choses à amener sur place le plus vite possible. Les pompiers professionnels et volontaires essentiellement. Alors on a aussi des membres de notre association qui sont spécialisés en logistique, on a aussi beaucoup de personnes médicales, médecins, ainsi vont nous accompagner. Donc c'est toutes ces expertises qui peuvent nous être nécessaires une fois sur le terrain.
600 kilos de matériel font également partie du déplacement avec l'équipe de l'association humanitaire. En revanche, l'aide est plus difficile à mettre en place en Syrie, c'est ce qu'a reconnu Laurence Boone, la secrétaire d'État française devant l'Assemblée. Elle ajoute que la France privilégie l'aide via les ONG et les Nations Unies. Nouvelle mobilisation donc aujourd'hui contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Près de 2 millions de personnes ont manifesté partout en France selon les estimations de la CGT, soit 800 000 de moins que le 31 janvier. La mobilisation est donc en baisse un peu partout, à commencer par Paris, où les syndicats ont dénombré 400 000 participants contre 500 000 la semaine dernière. À Marseille, ils étaient 180 000 d'après les syndicats et 15 000 d'après la police. Même constat dans les villes moyennes où les rangs des cortèges étaient moins gonflés, comme à Bayonne où ils étaient 12 000, à Châteauroux et Angoulême où ils étaient 8 000, toujours selon les partenaires sociaux. Antonin D'Agostini, vous étiez à Lyon où plus de 10 000 personnes ont manifesté d'après la police et plus de 30 000 d'après les syndicats. Mais malgré une légère baisse, les manifestants restent mobilisés.
On lâche rien !
On ne lâche rien. Malgré une mobilisation qui semble en baisse, les manifestants veulent garder une posture combative, à l'image de Françoise.
L'engagement des gens et puis le nombre de participants, ça motive. Je suis très très motivée pour nos jeunes, pour nos enfants et puis pour tous. Donc je ne perdrai pas ma motivation. Jusqu'à où, peut-être pas l'épuisement, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on lâche. On ne lâchera pas, c'est clair.
Pour l'instant, le gouvernement ne montre aucun signe d'inflexion. Pierre compte bien continuer le bras de fer.
Jusqu'à ce qu'ils enlèvent le projet. La bonne retraite, c'est la retraite à 60 ans pour moi. Il y a plein de gens qui ont besoin de ça. Et moi, je veux me battre pour eux.
On sait que le temps politique peut être différent du temps social. Pour José, la question de la convergence et de la radicalité va maintenant se poser.
Il faut arriver, je veux dire, à une convergence entre les gens qui vont venir peut-être des samedis, des choses comme ça, puis d'autres qui seront en capacité de faire des choses plus radicales. La marche va être difficile, mais on a aussi des gens à l'heure actuelle qui voudraient bien plus de radicalité dans les actions. Et je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui va se poser.
La CGT appelle déjà à des grèves plus dures, tandis que la CFDT a négocié une prochaine mobilisation ce samedi pour ménager les travailleurs.
Oui, prochaine manifestation ce samedi. On sait déjà que la SNCF n'appelle pas à la grève dans les transports. À noter d'ailleurs que de nouvelles perturbations sont à prévoir demain dans les trains suite à l'appel à cesser le travail de la CGT Cheminots et Sudrail. La SNCF prévoit 2 TGV sur 3, un intercité sur 2 et un TER sur 2 dans toute la France. Pendant ce temps, les débats se poursuivent sur les bancs de l'Assemblée après une première journée particulièrement agitée. L'examen de cette réforme des retraites ont échauffé les esprits dans l'hémicycle et en dehors. Plusieurs députés dénonçaient hier des menaces glissées dans leur boîte vocale ou dans les boîtes aux lettres, Célia Gutti.
Les méthodes sont variées. Un SMS qui indique qu'il est surveillé de près dans son vote pour un député Renaissance. Des appels anonymes qui indiquent à des membres du RN que leur famille est hospitalisée pour les faire quitter l'hémicycle. Et même des lettres remplies de menaces et de poudre blanche à destination de Fadila Khattabi, président des affaires sociales en charge du dossier. Mais le sentiment est le même, celui de faire pression sur les députés qui voteront le texte sur les retraites. Une violence qui a poussé la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à prendre la parole.
Je crois fondamental que chacun de nos compatriotes puisse savoir que justement les débats se tiendront à l'Assemblée sans aucune pression, que chaque parlementaire puisse être pleinement libre des prises de position qu'il prendra dans l'hémicycle tout au long des débats et je l'espère lors du vote final.
Dans son discours, elle dénonce des atteintes à la démocratie qui ne seront pas tolérées. La chef des députés RN, Marine Le Pen, a elle d'ores et déjà annoncé qu'elle porterait plainte.
Merci Célia. Et dans l'autre hémicycle parlementaire, c'est un tout autre sujet qui est sur la table ce soir. Le Sénat doit voter une ultime fois sur la loi d'accélération des énergies renouvelables. Un texte qui a bien changé depuis son premier examen en commission en octobre dernier. Beaucoup de bruit pour peu de choses, selon beaucoup d'associations qui regrettent le manque d'ambition du texte alors que la France est en retard sur ses objectifs en matière d'énergie propre. 40% d'ici 2030 contre 20% aujourd'hui. Mais Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables, tient à distribuer les bons points autant que les mauvais.
Parmi les bonus, moi je dirais d'abord le fait qu'il existe, le fait que le gouvernement ait souhaité présenter un texte d'accélération et que le Parlement l'ait voté, parce que ça signifie qu'il y a une prise de conscience politique sur le retard que connaît notre pays en matière d'énergie renouvelable et la nécessité d'accélérer. Ensuite, les énergies renouvelables sont des énergies qui sont implantées vraiment dans les territoires, au plus près des lieux d'habitation des gens, auprès des citoyens. Et sur ce plan, le rôle des élus locaux est majeur. Et donc, le Parlement a trouvé une disposition qui remet bien les élus locaux au centre du jeu, sans pour autant en faire les responsables de la politique énergétique du pays. Mais chacune de ces bonnes mesures est contrebalancée par d'autres dispositions qui nous posent un problème. Je vous en citer une qui me paraît révélatrice. Celle qui interdit finalement à un porteur de projet solaire de faire une demande d'autorisation si la superficie de son exploitation dépasse 25 hectares.
Jules Nissen du syndicat des énergies renouvelables préfère tout de même voir le verre à moitié plein. L'important pour lui est de mettre les moyens financiers derrière ces mesures. Bruno Le Maire est depuis hier aux États-Unis. Le ministre de l'économie et des finances français est à Washington avec son homologue allemand Robert Habeck. L'objet de la visite, les subventions vertes pour les entreprises américaines, mesure qui fait partie du plan climat de Joe Biden. Ces subventions pour les entreprises qui luttent en faveur du changement climatique inquiètent l'Europe. L'Union européenne craint un nouveau protectionnisme et une délocalisation de ses entreprises aux États-Unis. C'est notamment pour en savoir plus sur les subventions que les ministres français et allemands se sont rendus outre-Atlantique. Les détails de cette visite avec vous, Marion Torquebio.
Le programme du jour pour Bruno Le Maire et Robert Habeck, une rencontre avec le conseiller économique de la Maison-Blanche, Brian Deese, ainsi qu'avec la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen. L'objectif principal de ces rencontres, avoir plus de transparence sur les subventions vertes du plan climat proposé par l'administration Biden. En effet, ce paquet de mesures de 370 milliards de dollars prévoit des subventions pour les entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique. C'est le cas par exemple des fabricants de batteries de voitures électriques ou de panneaux solaires. Une mesure mesure qui fait craindre une course aux subventions qui aurait un effet contre-productif et une concurrence déloyale entre l'Europe et les États-Unis. Alors aujourd'hui, les ministres français et allemands tenteront de connaître le montant exact de ces subventions pour pouvoir les aligner sur les aides européennes. La Commission européenne élaborera ensuite une réponse à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu les 9 et 10 février prochains. Bruxelles mènera ensuite les négociations avec Washington.
Merci Marion. Elle pourrait durer plusieurs semaines. Le Vatican ordonne une visite apostolique au diocèse de Fréjus-Toulon, une nouvelle étape après la suspension des ordinations de juin dernier. Cette inspection générale doit permettre de faire la lumière sur la provenance des vocations et la pluralité des parcours de formation ou encore la présence de nombreuses communautés avec parfois la difficulté pour le diocèse de les accompagner et de les intégrer. Audrey Souriau, en quoi va consister cette visite apostolique ?
Cette visite apostolique doit permettre d'approfondir et de poursuivre le travail mené par le cardinal Jean-Marc Avelin lors de sa visite fraternelle lancée en 2021 à la demande de Rome. L'archevêque métropolitain, archevêque de Marseille, s'interrogeait notamment dans son rapport sur la valeur du discernement et de la formation au séminaire de la Castille, ce qui avait abouti en juin dernier à la suspension des ordinations. La question de l'accueil et du suivi des communautés était-elle aussi pointée du doigt, de même que la composition du presbytérium. Dans un communiqué publié à la mi-journée, le diocèse de Fréjus-Toulon dit accueillir cette nouvelle dans un climat de confiance et invite tous les fidèles et les clercs du diocèse à porter dans leur prière cette visite afin qu'elle puisse porter les fruits escomptés pour le bien de notre diocèse. L'Église du Var qui a mis à profit ces derniers mois pour réfléchir à comment améliorer différents axes de gouvernance. Cela passe notamment par le renforcement des modalités de suivi des différentes communautés accueillies dans le diocèse, mais aussi par des visites pastorales entreprises par Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse sur tout le territoire du Var.
Cette mission d'inspection a été confiée à Monseigneur Antoine Herouard, archevêque métropolitain de Dijon. Il sera assisté de Monseigneur Joël Mercier, ancien secrétaire du dicastère pour le clergé. Ils recevront différents acteurs du diocèse, prêtres, séminaristes et laïcs en responsabilité pour avoir une vision de la situation dans laquelle se trouve le diocèse de Fréjus-Toulon. On termine ce journal avec une page de sport, avec une bonne nouvelle. Et Alexis Peintureau en or, le Savoyard, est champion du monde du combiné pour la seconde fois. Après avoir survolé l'épreuve du Super-G ce matin, le Savoyard a tenu bon au slalom. Sa victoire est d'autant plus belle que c'est chez lui, à Courchevel, et devant son public qu'il a décroché cette médaille. C'est la première pour l'équipe de France pendant ces mondiaux de ski. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Nathan Faure pour la technique et merci à vous pour votre écoute. Bonne soirée sur RCF.